Cette semaine, Reporters sans frontières a publié son classement mondial de la liberté de la presse dans le monde. Il porte un titre sans surprise, une détérioration générale. Éprouvée par les conflits, explique RSF, la menace accrue d'acteurs non étatiques, les exactions commises lors de manifestations et par la crise économique et financière, la liberté de la presse régresse sur les 5 continents. Parmi les chutes spectaculaires dans le classement, en Afrique subsaharienne, le Congo-Brazzaville, 107e, il a perdu 25 places pour la manière violente dont il se comporte vis-à-vis des journalistes critiques. Brazzaville qui, rappelons-le, doit accueillir d'ici l'été le siège d'Africa News, la chaîne d'infos panafricaine portée notamment par Euronews, une chaîne qui ne pourra probablement pas bénéficier d'un climat favorable à son indépendance si la situation des médias dans le pays ne s'améliore pas. Un peu plus au nord, c'est le sort des journalistes de l'ORTB au Bénin qui inquiète. Le mondoblogueur Rogoba de Djegbe a publié un billet il y a quelques jours intitulé « Ozias Sonuvu sacrifié pour son impertinence à l'ORTB ». Le blogueur y parle du courage de ce présentateur, Ozias Sonuvu, qui en direct avait appelé à une plus grande liberté des médias publics dans son pays, s'attirant des sympathies au Bénin et dans le monde entier. Mais aujourd'hui, écrit notre blogueur, la pression populaire a diminué et les autorités de l'ORTB sont revenues à la charge. Ozias Sonuvu ne figure plus dans la programmation des présentateurs du JT, de même que Prévert Nouteou qui a été écarté. Reporters sans frontières a également dénoncé ces faits. Retrouvez le rapport de RSF et ses fils d'information par pays sur rsf.org. Retrouvez aussi le regard sans complaisance de nos blogueurs sur mondoblog.org.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Qui gouverne l'Internet? Nous avons posé cette question il y a quelques jours aux auteurs du dossier Internet, une gouvernance inachevée, publié dans la revue Politique étrangère. Qui gouverne l'Internet? C'est le débat à suivre dans une poignée de minutes, juste après la chronique américaine de Marie-Catherine Beuth. Une émission complexe aujourd'hui, mais nécessaire, comme est nécessaire le conflit pour innover. C'est ce que souhaite nous expliquer Francis Pisani dans presque une heure.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu veux aujourd'hui nous parler d'une polémique qui a cours en ce moment auprès des journalistes aux États-Unis.
Oui, c'était un peu la polémique de la semaine, être ou ne pas être journaliste. Je l'ai découverte en début de semaine en me connectant sur Twitter. J'ai vu qu'un certain nombre de journalistes américains partageaient, ironique, des conseils pour jeunes journalistes, des conseils qui étaient plutôt farfelus. Tous réagissaient en fait à un billet de Felix Salmon, un journaliste quarantenaire, qu'il avait publié sur Fusion, un nouveau site destiné plutôt au jeune public américain. Et Felix Salmon déconseillait tout simplement aux aspirants journalistes qui le sollicitent pour des conseils de se lancer dans cette voie. Pour lui, non seulement les choses vont mal, mais en plus, tout va empirer. On est mal payé, on ne fait pas les travaux à grands principes moraux auxquels on aspire réellement. Et puis, il se passe des choses dans le journalisme que l'on connaît déjà dans le monde réel. Par exemple, de plus en plus de gens qui écrivent très bien arrivent sur le marché du web. Et donc, un petit peu comme les chauffeurs de taxi sont défiés par les conducteurs d'Uber, aujourd'hui, on peut faire face à une augmentation de l'offre en termes de personnes qui écrivent, ce qui fait fatalement baisser les prix. Dernier point, on ne s'améliore plus au fil de la carrière, ce qui faisait que jadis les organisations voulaient investir dans le talent. Aujourd'hui, un stage chez BuzzFeed fait que vous avez peut-être plus de valeur que quelqu'un qui a passé 40 ans dans un quotidien. En bref, Felix Salmon dit « Surtout, ne devenez pas journaliste, c'est son principal conseil pour les jeunes ».
Quelles ont été les réactions à ce billet et à ce point de vue particulièrement pessimiste ?
Eh bien, la riposte de la jeune garde journalistique n'a pas tardé. Elle est notamment venue d'Ezra Klein, qui est le jeune fondateur du site d'information Vox.com, qu'il a lancé après avoir fait ses armes chez le Washington Post. Ezra Klein, lui, au contraire, encourage les jeunes à devenir journalistes. Il prodigue quelques conseils basiques, comme utiliser Twitter ou les blogs pour se faire un nom et travailler sa plume. Et puis, il donne quelques conseils plus intéressants. Par exemple, choisir la pratique ou l'opportunité de travailler plutôt que le prestige d'un titre. ou devenir vraiment spécialisé dans un certain domaine. Autre remarque plus intéressante pour nous journalistes qui travaillons depuis un petit peu plus longtemps dans le secteur, Ezra Klein recommande aux jeunes d'exploiter la paresse de vos aînés, des acteurs établis qui vont peut-être être un petit peu moins rigoureux dans leur travail. Et dernier conseil très intéressant également d'Ezra Klein, il recommande de ne plus attendre un mentor plus âgé pour faire ses gammes, mais plutôt d'apprendre de ses pairs. D'autres jeunes journalistes ont plus de choses à apporter aux nouveaux entrants que des vieux roublards du métier.
Et est-ce que toi-même, tu as des conseils ou une analyse particulière sur cette polémique et sur tout ce qui s'est dit autour ?
Eh bien, je suis étonnée que cette polémique continue d'avoir lieu. Je ne sais pas si des jeunes journalistes aujourd'hui ont besoin de nos conseils. Par contre, je pense qu'il est important de se poser un certain nombre de questions avant de rentrer dans cette profession. Par exemple, est-ce que vous aimez l'incertitude ? Est-ce que vous acceptez la remise en cause permanente ? Est-ce que vous êtes prêt à redéfinir jour après jour ce qu'est le journalisme ? Et enfin, est-ce que vous êtes prêt à sortir du journalisme le jour où soit cela ne vous correspond plus, soit on n'a plus besoin de vous dans cette profession.
Merci Marie-Catherine, on peut retrouver cette chronique et toutes tes chroniques à l'Atelier des médias sur ton blog personnel de l'atelier, atelier.rfi.fr. On peut aussi te lire sur ton blog du Figaro et découvrir tes projets personnels dont NOD News On Demand. À bientôt.
À bientôt.
Pourquoi aujourd'hui les modes de consommation de l'information ont évolué et comment la presse écrite doit s'adapter à ces nouveaux défis ?
Atelier des médias.
Atelier@rfi.fr.
Le déluge de communication que nous avons a tendance à étouffer un peu l'information.
Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin des journalistes, on n'a jamais eu autant besoin d'informations et de médias qu'aujourd'hui.
Internet, c'est ça qui m'a rapproché du journalisme.
Durant les années 80-90, l'écologie est passée d'un combat d'arrière-garde, souvent perçu comme ringard, à une problématique de premier ordre, ce qu'elle est toujours aujourd'hui. Je me souviens, comme beaucoup, d'un message qui était répété en boucle par les défenseurs de l'environnement. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Si vous ne faites pas partie de la solution, c'est que vous faites partie du problème. Les enjeux de l'Internet, de sa gouvernance, de ses tuyaux, de sa neutralité sont encore moins sexy que ceux de l'écologie. Ils sont complexes, éminemment abstraits, rebutants. Pourtant, c'est en grande partie dans leur compréhension et dans la défense de valeurs liées à l'Internet et à son réseau que se construit le monde d'aujourd'hui et de demain. Les citoyens de la planète, dont les 3 milliards d'internautes, ont aujourd'hui une responsabilité quant à l'avenir du réseau des réseaux. Ils peuvent choisir de laisser ces enjeux aux mains des gouvernants, aux mains des spécialistes ou s'en saisir, comme pour l'écologie. Notre rôle est au minimum de tenter de comprendre ce que nous sommes en train de déléguer. Notre rôle en tant qu'émission radio, l'Atelier des médias, notre rôle en tant que publication scientifique. Nous sommes réunis à l'initiative de la revue Politique étrangère, trimestrielle de l'Institut français de relations internationales, c'est-à-dire l'IFRI. Son édition de l'hiver 2014-2015 a pour titre « Internet, une gouvernance inachevée ». Nous allons explorer ce thème, cette question aujourd'hui avec 4 des 5 auteurs de ce dossier et avec vous, public du Tank qui nous accueille ce soir. Bonjour Julien Nocetti.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFRI, spécialiste de la gouvernance d'Internet. C'est vous qui avez donc dirigé ce dossier de politique étrangère. Un mot tout d'abord sur vos ambitions, vos intentions.
Alors une des idées était de faire un point avec un peu de recul sur les conséquences de l'affaire Snowden, puisqu'on a beaucoup parlé évidemment sans beaucoup de recul. Or il me semblait important pour une revue aussi comme la nôtre, de relations internationales, d'essayer d'appréhender toutes les reconfigurations en fait actuelle au sein du système international, qu'elle soit politique, économique, liée à des questions de plus de société, comme les notions de surveillance de vie privée, auxquelles touche l'affaire Snowden. Donc le dossier qui comprend donc 5 articles, essayer d'appréhender tout ça sous un prisme à la fois de relations internationales et puis un prisme un peu plus transversal, avec des focus plus sur les questions de neutralité notamment, et voilà, de données aussi.
Qu'est-ce qu'on entend déjà par gouvernance ? C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qu'on peut peut-être expliciter, en particulier quand on parle de l'Internet.
Alors effectivement, c'est un terme un peu abstrait en français. puisqu'en fait, si vous voulez, prévaut l'idée qu'on influe l'extérieur sur quelque chose. Alors qu'en anglais, l'expression Internet Gabberland, c'est beaucoup plus globalisante, en fait, je dirais.
On n'est pas de l'extérieur,
en fait. Ça se comprend de la manière dont l'Internet se gouverne, voilà.
Je vais vous citer, c'est vous donc qui signez l'introduction et vous signez également un article. Je vais vous citer et puis je vais vous résumer pas mal la problématique et je vais vous demander d'expliciter certaines des questions que vous soulevez. Infrastructure globale aux pratiques et aux règles localisées, l'Internet est un mélange de centralisation, le cœur, les ressources critiques, les adresses, les noms de domaine, et de décentralisation. Le réseau bouleverse les conceptions de l'espace et du temps, brouille les frontières entre public et privé, multiplie les conflits juridictionnels. Concrètement, les rapports de force se matérialisent autour de questions cruciales. Je vais vous demander de les commenter, les questions cruciales. Sécurité et souveraineté.
Vous avez aujourd'hui des États qui, à l'origine, étaient minoritaires dans les débats et les négociations sur Internet et qui, aujourd'hui, tentent de prendre davantage de place. Alors, des États dits autoritaires, et depuis l'affaire Snowden, les États en général en fait. Donc les pays européens n'hésitent plus aujourd'hui à mettre en avant leur légitimité à s'insérer dans ces débats.
Protection de la propriété intellectuelle et de la vie privée.
Ça, c'est avec l'affaire Snowden, on a tous eu conscience.
Pour la vie privée, en tout cas.
La vie privée, notion de surveillance aussi. Donc, propriété intellectuelle, évidemment. Puis, puisqu'en fait, l'économie numérique est une économie qui repose frontalement à la question de la propriété intellectuelle.
Liberté d'expression et neutralité des réseaux. On va bien entendu revenir plus longuement sur la question de neutralité des réseaux.
Les pères fondateurs de l'Internet ne concevaient pas les réseaux comme devant être entravés par des législations qui pouvaient contraindre ou réprimer les liberté d'expression. Et on a vu aujourd'hui que dans les pays du monde arabe, ou en Russie, en Chine, ou dans d'autres pays, les réseaux numériques étaient absolument cruciaux dans la mobilisation des citoyens. Et du coup, les censurer, entraver les libres communications, est un vrai sujet, évidemment.
Et enfin, fracture numérique entre Nord-Sud, entre territoires, entre générations et affrontements politiques.
Alors là, on touche aux questions de développement et la fracture numérique est elle a aussi un vieux débat, en fait, sur le fait de résorber cette fracture numérique, puisqu'il y a encore aujourd'hui très forte disparité d'adoption numérique entre les pays très schématiquement du Nord et du Sud, même si ça commence à se réduire, notamment en Afrique, via le mobile. Mais c'est là, encore une fois, une des questions centrales.
Bonjour Bernard Benamou.
Bonjour.
Vous enseignez, vous, la gouvernance de l'Internet à l'Université Paris 1. Vous avez été délégué interministériel aux usages de l'Internet et conseiller de la délégation française au sommet mondial de la société de l'information. On parle de SMSI, c'est ça ?
On parle de SMSI, c'était sous l'égide des Nations Unies et c'était effectivement un premier rassemblement des États autour de la gouvernance de l'Internet.
Donc ça, c'était il y a 10 ans.
Plus de 10 ans maintenant.
2003-2005, c'est 2005. Ça. C'est un moment important dans l'histoire de la gouvernance d'Internet. C'est un moment que vous avez vécu. Vous.
Oui, ce devait être un moment crucial. Ça a été l'occasion, effectivement, de structurer, je dirais, une réponse européenne à la domination américaine sur les ressources critiques. Et c'était pour définir un nouveau mode de gouvernance qu'a été réuni ce sommet.
Donc ça s'est passé à Genève, c'est ça ?
Puis à Tunis.
Puis c'était peut-être un choix un peu...
C'était un choix que nous, Français, je peux le dire maintenant, étant dégagé de toute obligation de réserve, c'était un choix calamiteux, qui donnait une mauvaise image, et de surcroît, j'allais dire, l'histoire a montré que ce n'était pas rendre service à la cause de l'Internet que de mettre la chose là-bas.
Donc ça, c'était en 2003, puis en 2005, on va en reparler de ce SMSI, parce que ça fait date, et il y a un avenir à ce sommet. Donc, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous dites c'était sous l'égide des Nations Unies,
oui,
organisé par l'Union Internationale des Télécoms, donc qui est une agence des Nations Unies. Et il y avait un enjeu de prise de place des Européens dans le domaine.
Voilà, on va rappeler brièvement l'histoire. Au moment où l'Internet a été créé, pour des raisons techniques, et je sais qu'il y a des experts de l'histoire des technologies de l'Internet dans la salle, pour des raisons techniques... Par définition, les techniciens sont allés au plus simple. Il n'y avait pas de grand complot, comme certains ont essayé de l'imaginer après, de domination américaine. Par la suite, lors du développement du web, non pas de l'Internet, qui a plus de 40 et quelques années, mais du web, qui en a 25...
Donc l'Internet, c'est le réseau, le web, c'est une des applications du réseau.
C'est une des grandes applications du réseau, celle qui est la plus visible vue du citoyen, mais qui ne résume pas, loin s'en faut, l'Internet.
Et pour expliquer, donc, le web, c'est quand on utilise un web browser, donc un navigateur.
Absolument.
Et les autres applications du réseau, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut être le peer-to-peer, le pair-à-pair, ça peut être le mail de temps en temps, ça peut être la télévision par Internet.
Ça peut être différentes formes, effectivement, de mise à disposition de contenu et de services. Et il est vrai, effectivement, que lorsque l'Internet est devenu grand public, milieu des années 90, fin des années 90, ces ressources qui avaient été créées donc au milieu des années 80, fin des années 80, sont devenues véritablement cruciales. Et l'administration Clinton, 98, a décidé de créer un organisme pour essayer de faire rentrer, je dirais, les différentes parties prenantes, comme on les appelle, dans la boucle.
Cet organisme, il s'appelle
l'ICANN, s'appelle toujours l'ICANN, qui a eu, depuis son origine, là encore, sans obligation de réserve aucune, un fonctionnement plus que opaque, avec des objectifs tant politiques, économiques et financiers plus que discutables, et qui a toujours effectivement ramené la gouvernance vers ce qu'elle était dans sa toute origine, c'est-à-dire une structure et une création purement américaine.
ICANN pour Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
Et en gros, c'est l'organisme qui attribue et qui gère les ressources que sont les noms de domaine et effectivement initialement les adresses IP, et qui après délègue à chaque organisme aussi bien privé que public, enfin plutôt privé dans l'ensemble, le soin de gérer une extension ou de gérer des blocs d'adresses pour effectivement les différentes régions du monde et les différents utilisateurs. En fait, j'aimerais revenir sur ce point. Ce qu'a démontré l'affaire Snowden, c'est que nous tous, et je dirais nous sommes tous coupables dans ce domaine, avons accordé une importance démesurée à l'ICANN. Nous avons fait la grâce à l'ICANN d'être un organisme important, ce qu'il n'est pas. Au risque de surprendre certains, je maintiens que l'organisme prioritaire dans les crises que nous avons vécues ces derniers mois n'est pas l'ICANN. Ce sont les organismes de gestion des technologies, de normalisation, de standardisation des technologies. Et il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un seul. Le premier auquel on pense, c'est évidemment l'IETF, mais il n'y en a pas qu'un seul.
Donc l'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force?
Oui, c'est un organisme que je vous invite à regarder d'assez près parce que c'est un modèle de fonctionnement assez étonnant, informel, et qui fait fonctionner l'ensemble des technologies du réseau. C'est-à-dire qui résout les problèmes techniques et qui se propose effectivement de faire en sorte que globalement le réseau fonctionne. Et c'est là que l'on voit de nouveaux enjeux de pouvoir qu'on n'avait pas vu au départ sur les normes et standards, sur les systèmes effectivement de cryptographie, sur les systèmes de sécurité, de protection de la vie privée. Et c'est là où se décide l'avenir réel. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, l'Internet c'est une forme de force naturelle qui serait pratiquement parallèle à l'espace, la mer, etc. Non. C'est une construction, et comme toute construction humaine, elle peut être orientée humainement vers un axe ou vers un autre. Et il se trouve que ce qu'a démontré Snowden, c'est que on a introduit des fragilités dans le réseau, on a introduit des failles dans le réseau, qui peuvent être utilisées par la NSA et les fans surveillance, mais qui peuvent tout aussi bien être utilisées par des mafias ou par des organisations criminelles pour après utiliser ces failles pour leur propre dessein. C'est quelque chose qui n'était pas visible de tous, et je dirais que c'est peut-être l'un des bienfaits de l'affaire Snowden que d'avoir recentré le débat là où il est, c'est-à-dire faire en sorte que les États se rendent compte de ce que sont devenus les vrais enjeux, les vrais risques pour les citoyens, pour les libertés, pour le réseau lui-même qui est devenu l'objet d'attaques quasiment quotidiennes. Toutes les infrastructures critiques, toutes nos infrastructures critiques, depuis l'adduction d'eau, l'électricité, les transports, le fonctionnement urbain, tout repose de près ou de loin sur le réseau. Ce n'est pas uniquement le transport d'informations, c'est pratiquement toutes nos vies. Et avec l'évolution de ce qu'on appelle dans nos jargons l'Internet des objets, ça va devenir encore plus intime. On voit bien que c'est ces changements-là qui vont induire des changements dans les modes de vie et devront induire des changements dans la gouvernance. Et là-dessus, je dirais qu'on est un peu en retard parce que, par définition, il était question des GAFA, les grands acteurs de l'Internet au sens large, organisent le réseau à leur propre avantage, avec des technologies qu'ils maîtrisent, qui parfois vont être investies par des agences de surveillance, mais qui, en tant que telles, quand Eric Schmidt écrit un livre...
Eric Schmidt, c'est le patron de Google.
Voilà, qui est le patron de Google, qui écrivait un livre en disant, en gros, les États sont devenus inefficaces, nous sommes efficaces, nous, Google, sommes efficaces, et la suggestion, à peine en filigrane, c'était « nous remplacerons les États ». C'est-à-dire que quand une société comme Google se propose d'organiser la vie sociale, de remplacer les structures de sécurité, de prévoir les lieux où auront lieu les crimes, comme ça a lieu dans certaines villes aux États-Unis, quasiment comme dans le film Minority Report, ça n'est plus du tout de la science-fiction.
Et votre connexion Internet fonctionne ?
L'atelier des médias.
Petite pause dans l'atelier, nous nous retrouvons dans quelques instants, nous serons toujours au tank avec nos invités.
Nous nous ferons un plaisir de vous tenir vous informer dès que notre connexion Internet sera rétablie.
Atelier des médias, merci de nous retrouver, merci de rester avec nous si vous nous écoutez par podcast. Qui gouverne l'Internet ? Nous avons posé cette question aux auteurs du dossier principal du dernier numéro de la revue Politique étrangère. C'était lors d'un débat enregistré au Tank à Paris, dont nous vous proposons aujourd'hui de larges extraits. La version longue est bien entendu à écouter et à télécharger sur Internet, c'est-à-dire sur atelier.rfi.fr.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Yann Malouf. Simon de Creuse.
Et vous,
Donc Bernard Benamou, votre contribution s'appelle « La gouvernance d'Internet après Snowden », donc après l'affaire Snowden, après les révélations d'Edward Snowden. Vous écrivez dans votre article « Les citoyens doivent participer à la construction des réseaux, non pas en tant qu'utilisateurs, mais bien comme co-architectes ».
Oui, c'est-à-dire, à l'heure qu'il est l'un des problèmes, c'est que, à la différence des autres grands réseaux que les gens utilisent tous les jours, les techniques qui permettent de faire fonctionner le réseau et de faire fonctionner les applications sur le réseau sont maîtrisées par une frange infime de la population. L'un des vrais enjeux, c'est rendre plus transparent dans tous les sens du terme le code qui fait fonctionner ces réseaux. Transparent dans le sens où il doit être ouvert.
Et open source.
Exactement, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas une, excusez-moi l'anglicisme, une black box, c'est-à-dire que seuls ceux qui l'ont écrit soient capables de le maîtriser.
Une boîte noire.
Une boîte noire. Le pire étant, par exemple, le vote en ligne. Le vote en ligne qui paraît être une extraordinairement fausse bonne idée, qui devient un outil de séquestration démocratique effroyable si on n'y prend pas garde. Et donc, par définition, il faut que les gens aient accès au code et à terme, ce sera une préoccupation pour les temps qui viennent, qu'ils puissent eux-mêmes participer à le créer. Et en participant à le créer, ils, d'une part, ils pourront participer à ce que le réseau ait, non pas simplement forme humaine, mais forme proche d'eux, mais aussi participer à la discussion, au sens démocratique, sur l'évolution du réseau. Parce que pour l'instant, et on le voit bien, nous tous qui nous occupons de ça depuis quelques années, on voit bien que c'est une toute petite communauté d'acteurs qui s'est regroupée autour de ces questions. Il faut ouvrir le débat au sens, le rendre plus large.
On peut revenir sur l'effet de l'affaire Snowden. Vous listez un petit peu des effets, notamment des préjugés ou des idées qui se sont écroulées à ce moment-là. Je vais vous citer, si vous souhaitez commenter, dites-moi. La volonté des acteurs technologiques de protéger les données de leurs usagers est un invariant économique. Donc ça, c'était une idée qui circulait. On se disait que les acteurs protégeaient les données. En fait, non, ça marche pas. Et puis, c'est pas le marché qui va faire en sorte que les données soient protégées, c'est ça ?
La pente naturelle, si tant est qu'on puisse parler de pente naturelle des acteurs technologiques, sera d'abord d'explorer au plus loin et au plus profond l'intimité des gens. Comme le disait quelqu'un il y a peu, la première personne qui est informée dans des cas graves, par exemple d'une maladie, si vous avez une pathologie grave, ce n'est même peut-être pas votre conjoint, ce sera Google parce que vous irez chercher effectivement des informations sur cette maladie d'emblée. Et donc, on se rend compte du degré d'intimité que nous avons déjà avec un moteur de recherche que l'on interroge avec un clavier. Quand ce moteur de recherche sera intégré à l'ensemble des fonctionnalités, des objets que vous aurez autour de vous, il n'en saura plus que quiconque, y compris vous-même, sur vous-même.
Très rapidement, dans les idées préconçues qui sont tombées, surveillance limitée à des enquêtes et des individus suspects isolés. Donc on a compris que la surveillance était massive et non plus ciblée et que le cible...
Elle est massive, elle n'est pas ciblée. Et au dire même des experts qui ont rendu un rapport à la Maison Blanche en fin d'année dernière, elle n'est pas efficace.
Métadonnées moins sensibles que données, alors ça c'est aussi quelque chose qui paraît complexe, mais qu'on peut expliquer.
On va le dire simplement. Vous avez tous entendu parler de l'histoire des fadettes. Vous savez, quand on écoute les gens, on a les factures détaillées. Et les gens disaient, je préfère que la police ait accès aux factures détaillées plutôt qu'elle n'ait accès au contenu de mes conversations. Or en fait, comme le disait très bien Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, savoir ce avec qui vous échangez, ce vers quoi vous allez lorsque vous naviguez sur Internet, est peut-être plus important que d'avoir le contenu même des messages que vous échangez.
Et en gros, les métadonnées, ce sont des données qui informent sur les données.
Donc, exactement. Ce sont les données qui décrivent la nature des données qui sont derrière.
Vous vous interrogez dans la fin de l'article, et ça va probablement introduire ce qu'on va dire par la suite, s'il ne faudrait pas un traité transatlantique pour la gouvernance d'Internet, ou encore mieux peut-être, ou je ne sais pas, c'est à vous de le dire, ce que souhaite Tim Berners-Lee, donc qui a conceptualisé le World Wide Web. Lui, il souhaite une constitution mondiale pour l'Internet. L'objectif, c'est de placer les principes fondamentaux du réseau au-dessus des lois nationales, si c'était possible.
L'un n'étant pas antagoniste avec l'autre. Et je dirais même mieux, l'un pouvant être un prélude à l'autre. Je crois effectivement que pour nous, Européens, nous sommes dans une situation toute particulière. C'est-à-dire que nous avons une vision différente de certains enjeux de vie privée, de liberté d'expression. On le voit tous les jours aujourd'hui sur, par exemple, l'attaque. Julien Ossetti nous faisait passer un article du New York Times qui décrivait dans des termes quasiment odieux, le droit à l'oubli qui a été mis en œuvre par les institutions européennes. Il se trouve que nous avons évidemment un choc sur ce qui est nos traditions, sur le fait que la liberté d'expression n'est pas la même, ou en tout cas qu'elle n'est pas défendue de la même manière des deux côtés de l'Atlantique. Nous avons des différences sur la protection de la vie privée. On a beaucoup de différences, mais on a des points communs sur les valeurs démocratiques que nous souhaitons effectivement inscrire dans l'action publique. Et donc globalement, je pense qu'il nous faudra inscrire certains principes et dégager ces principes pour faire en sorte que s'il y a une nouvelle affaire Snowden, parce que malheureusement on peut absolument pas l'exclure, d'une manière ou d'une autre, on puisse y trouver matière à opposabilité au niveau international. Et je crois effectivement que ce principe devrait être négocié avec nos partenaires, et je dirais nos voisins immédiats, allemands, avant que d'imaginer une solution à 28 qui serait impraticable, surtout avec nos amis britanniques. Mais une alliance franco-allemande et à terme une discussion transatlantique sur ces questions, voire même avec le Brésil ou l'Inde, serait possible pour, je dirais, marquer les esprits et faire en sorte qu'il y ait progressivement un ralliement autour d'un noyau dur de principes.
Bonjour Françoise Massifoléa.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, consultant, chercheuse, on dit aussi.
Oui, vous pouvez.
Chercheuse, consultante en usage et gouvernance de l'Internet. Votre article à vous a un nom compliqué dans la revue. Il a pour titre Internet et les errances du multi-stakeholderism.
Merci à la rédaction de l'avoir laissé passer.
C'est un joli mot en même temps qu'il est complexe. Donc, il faut expliquer ce que c'est. Vous avez souhaité ne pas traduire le terme parce qu'il n'y a pas de traduction fidèle en français, c'est ça ?
Alors, en français, on dit multi-parties prenantes.
Ces partisans, ça c'est ce que vous écrivez, pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Ces partisans la présentent comme une voie moyenne entre des visions opposées de la gouvernance de l'Internet. Ni totalement autorégulée, ni exclusivement privatisée, ni entièrement soumise au contrôle des États. Cette ambition paraît, là c'est un commentaire que vous faites, hors de portée, faute de volonté, de cadre et d'instruments pour bâtir un consensus global et éviter que certains soient plus égaux que d'autres. Donc l'idée c'est que Internet étant un projet planétaire, on n'a jamais voulu qu'il soit soumis à une entité particulière. Donc plusieurs entités, des États, des organisations, des associations, etc., ont tenté de se mettre d'accord depuis au moins une grosse dizaine d'années pour gérer, ou en tout cas essayer de gérer l'Internet. C'est ça, en gros ?
En gros, c'est ça, oui, bravo. La question qui a fait l'objet de titres de nombreux livres et articles depuis une vingtaine d'années, c'est qui contrôle Internet ? Y a-t-il un maître du réseau, etc. Les uns disent, oui, il y en a un, c'est les Américains, grâce à la puissance de frappe de leurs entreprises et grâce au verrouillage, à la centralisation opérée par l'association ICANN. Et puis peut-être aussi, si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, grâce au grand projet qui avait été celui de Clinton-Gore, la National Information Infrastructure, d'où est née vraiment l'expansion, pour l'instant sans limite, du réseau des réseaux.
Alors, ce que vous expliquez dans votre contribution, c'est que une des grandes faiblesses de cette approche multipartie prenante, c'est que la société civile, le rôle de la société civile est compliqué, qu'il manque de légitimité politique, c'est ça, à l'échelle internationale, et que du coup, c'est une grande faiblesse.
C'est vrai qu'au début, les débuts de l'Internet ont été marqués par des échanges très techniques entre pairs, entre experts informaticiens de différents labos, etc. C'était des gens qui étaient égaux. Bon. Ensuite, avec l'entrée d'Internet dans le grand public depuis la création du web, en gros, hein, et par Berners-Lee, qu'évoquait Bernard, c'est devenu le public de l'Internet, ou les praticiens de l'Internet ont été à la fois des entreprises, et puis aussi le vulgus pecum, nous, les internautes de base, et les États n'ont pas été très présents au démarrage, sauf un, je ne le rappelle pas,
les États-Unis.
Donc, on a eu les entreprises et les internautes. Et puis, à partir du moment où l'Internet est devenu pratiquement l'énergie du monde contemporain, les États se sont dit, on peut quand même pas avoir à être dépossédés comme ça de notre énergie. Mais la société civile aussi, dans les associations les plus conscientes ou dans des associations qui n'ont pas forcément à voir au départ avec l'Internet, les associations de défense de la vie privée, les associations de défense des consommateurs,
des droits de l'homme, de la liberté d'expression,
etc., ont vu là, si vous voulez, un nouveau terrain à investir. Simplement, avec quels moyens? Alors, dans la société civile, il y a un premier moyen, c'est le nombre. Le nombre en manif, le nombre en pétition, non. Bon. Il n'est pas évident de participer à toutes les réunions de l'ICANN qui ont lieu aux quatre coins du monde, aux 12 coins du monde.
Bernard Benamou à côté de moi dit c'est fait exprès.
Oui, voilà. Bien sûr. Donc finalement, les gens qui sur le terrain, ce qu'on appelle les grassroots, hein, les gens qui sont à la racine, qui sont en train d'imaginer une application mobile pour les paysans du Kenya ou un système de paiement sur mobile dans d'autres pays d'Afrique ou un système de banque sur mobile en Inde, etc. Tous ces gens, ils ne s'intéressent pas à ce qu'on appelle la gouvernance de l'Internet.
On va aller rapidement, on va donner la parole à notre quatrième invité. Simplement un mot sur l'année 2015, c'est une année essentielle, c'est une année où l'ICANN a annoncé qu'elle allait changer de nature.
Pardon? C'est pas elle qui a annoncé,
oui.
C'est le gouvernement américain
a annoncé qu'il allait renoncer à sa tutelle, c'est ça, plus ou moins. Et c'est une année où, à la fin de l'année 2015, il va y avoir un sommet, donc SMSI plus 10, donc 10 ans. 11 ans, pour être précis. Après Tunis, les acteurs vont se réunir pour un grand sommet à New York, et évidemment dans un contexte extrêmement différent, avec des débats que vous promettez dans votre texte houleux.
Oui, les débats sur la gouvernance de l'Internet sont toujours houleux. Depuis que, par exemple, il y a une liste de diffusion où s'échangent des propos quotidien émanant de la société civile à propos de la gouvernance de l'Internet, on a vu progressivement ces dernières années les positions se crisper terriblement, et en gros on a les pro-US et les ne disons pas les anti-US, mais enfin les pro-multilatéralisme mieux respectés. Et bien d'autres domaines.
Et pourquoi le département donc de commerce américain a décidé de mettre fin à sa tutelle? Un mot sur cette décision, qui est une décision impressionnante, sa tutelle sur l'ICANN, pour faire taire le...
À l'origine, il a toujours été dit que la vocation de l'ICANN était d'être internationalisée. C'était une tutelle provisoire. Bon, on a attendu qu'elle ait un bon portefeuille grâce à l'allocation des noms de domaine. On a attendu que les instances qui la composent soient un petit peu stabilisées. Bon, et puis on a été, et quand je dis on, je pense au gouvernement américain, on a pris en pleine figure l'affaire Snowden. Ce qu'il faut remarquer, je voyais Bernard hochant la tête, est-ce que septembre 2015 va voir advenir la fin de la tutelle américaine sur l'ICANN? Je n'en crois pas un mot. D'autant
donc
que
c'est une fin formelle et pas une fin...
Non, mais savez-vous qui est chargé d'assurer cette transition? L'ICANN.
Pour faire la transition, donc vous terminez votre contribution par des conseils, ou en tout cas pour construire cette gouvernance. Et l'idée globale, c'est qu'il faut se débarrasser d'un projet de gouvernance globale pour un Internet global, qu'il ne faut plus considérer l'Internet comme une seule entité, mais comme un système socio-économique complexe. Complexe peut-être aussi avec cette idée de neutralité, ou la question de la neutralité. Bonjour Francesca Musiani.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche à l'Institut des sciences de la communication, membre de la commission sur le numérique à l'Assemblée nationale. Donc c'est une commission qui conseille, un petit peu accompagne la question numérique depuis quelques mois à l'Assemblée nationale française, c'est ça ?
Qui est censée proposer quelque chose pour que le Parlement ne légifère plus en mode purement réactif, mais qui accompagne sa réflexion de manière un peu plus de longue période sur des questions liées au numérique et notamment au droit à la liberté.
Qui est censée, parce que ça marche pas très bien, c'est ça ?
Disons que
les conseils que vous donnez, notamment pour ne pas trop surveiller les citoyens, ne sont pas écoutés par les parlementaires.
Pour le moment, on veut juste dire que la recommandation qu'on a rendue sur la loi antiterrorisme aurait pu être mieux prise en considération.
Votre article dans la revue a pour titre « Neutralité de l'Internet, dépasser les scandales ». On va d'abord expliquer ce qu'est la neutralité de l'Internet. C'est un terme qui a été rendu célèbre au début des années 2000, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, la neutralité du net, en fait, c'est une sorte de faux ami au sens où la neutralité peut, pour une grande partie des internautes, renvoyer à des questions de contenu, donc plutôt à des questions d'équilibre de point de vue, de respect de point de vue. Or, dans ce cas spécifique, ce n'est pas ce dont il s'agit, mais c'est un principe qui a trait à la couche transport de l'Internet. Donc la neutralité a trait à l'absence de discrimination dans la circulation des paquets de données sur le réseau.
En d'autres termes, on pourrait dire la neutralité, c'est que les réseaux ne choisissent pas ce qui passe. Tout passe et ils vont faire circuler les informations. Ils vont pas dire toi tu passes avant, toi tu passes après, toi t'as payé pour passer, toi t'es plus important. En théorie, en tout cas, c'est ça l'idée.
Que les opérateurs du réseau ne discriminent pas selon un certain nombre de critères qui peuvent être le point de départ, le point de fin, le type de trafic.
Et à l'origine, c'est évidemment une question technique qui a été imaginée à un moment où l'Internet était quelque chose d'assez petit. Et évidemment, on comprend que ça devient une question politique assez rapidement, puisque qui dit discrimination dit choix entre certains types d'informations, etc. Et économique aussi, évidemment, parce que si on privilégie les paquets qui viennent de tel acteur économique au détriment des autres, eh bien ça le favorise et ça a un impact.
Oui,
c'est
absolument.
Ça
voir ça ouvre la voie à toutes sortes de alliances entre, par exemple, opérateurs de réseau et grands distributeurs de contenu qui donc peuvent renforcer éventuellement des monopoles qui existeraient déjà ou en créer.
En gros, les opérateurs disent il y a de plus en plus de choses qui passent dans nos tuyaux, ça nous coûte de plus en plus cher. Il faut qu'on puisse discriminer. Il faut qu'on puisse faire payer des services comme YouTube, etc., parce qu'ils prennent beaucoup de bandes passantes. C'est ça,
c'est un premier niveau.
Ce qui est un discours qui paraît cohérent, mais qui en fait nuit à la neutralité du net. C'est-à-dire et du coup nuit à un principe fondamental.
Un premier point, c'est que de dire qu'ils peuvent discriminer. Et de l'autre côté, c'est aussi la répartition des coûts.
Bernard, vous souhaitez...
J'abonde tout à fait sur ce qui a été dit sur le mécanisme économique. Ce qui m'ennuie un peu, parce que ces questions agitent l'ensemble des acteurs du réseau depuis longtemps, ce qui m'ennuie, c'est qu'on limite la discussion autour de la neutralité autour de purs enjeux économiques.
Mais il y a aussi des enjeux politiques.
Il y a des enjeux politiques de censure évidente. Donc ça c'est une chose. Mais il y a des enjeux d'évolution du réseau et de nos sociétés par le réseau. Tout aussi évident. C'est-à-dire que l'un des problèmes n'est pas de dire on va ralentir ou bloquer tel ou tel paquet IP. Ça, c'est important, évidemment. Mais l'architecture qui fonde l'Internet lui-même, tel qu'il a été conçu par ses pères fondateurs, cette architecture prévoit que toute machine connectée au réseau a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Ça veut dire que tout le monde peut devenir lui-même serveur, que tout le monde peut créer le web. Tim Berners-Lee, pourquoi est-il un avocat à ce point passionné de la neutralité, parce qu'il sait que s'il n'y avait pas eu de neutralité, s'il avait fallu demander une autorisation, jamais aucun État n'aurait accordé l'autorisation de créer le web. Jamais. Ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Quelles sont les grandes recommandations pour cette année 2015, où il se passe en plus beaucoup de choses pour la gouvernance d'Internet?
Oui, il nous faut être conscient que certes, les changements radicaux de gouvernance n'auront pas lieu. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur le peu de chance que nous, observateurs de la CAN, de voir le gouvernement se dessaisir, de desserrer les étreintes sur quelque chose qui est crucial politiquement, économiquement, stratégiquement pour eux. Là-dessus, je pense qu'ils ne changeront pas. En revanche, sur la capacité des Européens à se coaliser, sachez qu'une coalition, ça n'est petit. Et ça devient possiblement grand.
Françoise ?
Oui, un point qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est la littératie numérique, l'alphabétisation numérique. Je crois que par rapport aux questions de pouvoir, là, les petits, les gros, les puissants, les faibles, etc., il ne faut pas oublier que ce qui donne le pouvoir sur Internet sont les internautes. Hein, et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les possibilités qu'ils prennent le pouvoir grâce à l'architecture initiale du réseau, elles existent toujours. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir ? C'est qu'on transforme les internautes en consommateurs, consommateurs de contenu, consommateurs divers, et qu'on ne crée plus avec Internet, sauf pour faire du business. Donc, je voudrais revenir sur une chose toute simple, c'est l'importance de l'apprentissage, de l'éducation, de la formation. L'éducation populaire, en l'occurrence, a un chantier là qui s'ouvre et qui devrait être soutenu.
Merci à tous. Il y a beaucoup de sujets que nous n'avons pas abordés. J'en suis désolé, mais c'est la règle du jeu. On n'a pas parlé de cyberguerre. On n'a pas parlé de l'ubérisation. C'est un mot qu'on entend de plus en plus. En tout cas, l'internet comme outil d'oppression économique. On n'a pas parlé des questions d'emploi. On n'a pas parlé pratiquement pas des questions de droit d'auteur, de copyright, qui sont un enjeu qui revient énormément, mais qui tous ces sujets-là pourraient faire une rencontre comme celle-là. Merci donc à tous les invités. Merci aux équipes du Tank, merci aux équipes de la revue Politique étrangère et merci à vous, le public qui êtes venus nombreux ce soir. Merci encore.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Jeanne Mahalouf.
Comment ça va ?
Très très bien, et toi ?
Ça va très bien, si j'ai bien compris Francis, aujourd'hui tu veux nous dire que les conflits sont une bonne chose, explique-toi.
Précisons tout de suite qu'il s'agit d'innovation, même si on peut en tirer quelques réflexions sur notre fonctionnement social. Je viens en effet de trouver un article de Linda Hill, qui est professeure à la Business School de Harvard, et qui dit que les boîtes les plus créatives encouragent l'abrasion, c'est le mot qu'elle utilise, on pourrait dire les frottements ou les égratignures créatives. Elle recommande les conflits comme une source essentielle de créativité, et s'appuie pour le faire sur de longues et minutieuses enquêtes, notamment chez Google et chez Pixar, le studio de dessin animé dont Steve Jobs a été le patron. Elle part du même constat que Steven Johnson, dont j'ai déjà parlé en présentant son livre « D'où viennent les bonnes idées ?», elle souligne que les innovations ne viennent pas d'un éclair de génie individuel, mais d'un long travail d'équipe. Mais le mot n'est pas au singulier. Elle constate que ces grosses boîtes avancent plus vite et plus loin quand elles mettent des équipes en concurrence et les font s'affronter avec des propositions différentes.
Est-ce qu'à tes yeux, c'est un point de vue réellement original ?
T'as raison de poser la question, mais le fait qu'elle ne soit pas seule me semble renforcer l'intérêt de sa proposition. Ce qui m'intéresse dans le travail de Linda Hill, qui vient de co-signer un livre intitulé « Le génie collectif », c'est qu'elle rejoint plein d'expériences ou de théories que nous avons déjà vu ensemble. Les Israéliens, par exemple, attribuent une grande partie de leur dynamisme au fait qu'ils s'engueulent franchement sur tous les projets qu'ils lancent et laissent les désaccords se manifester. Tonissier, le patron de Zappos, la première boîte qui soit parvenue à vendre des chaussures online, encourage ce qu'il appelle les collisions au sein de l'entreprise, et tout ça fait penser à ce mot du musicien Brian Eno qui oppose le génie individuel, genius en anglais, au génie collectif qu'il baptise Genius. Linda Hill dit que les bons patrons mettent en scène ces conflits sans éprouver le besoin de s'y présenter comme vedette. En clair, nous avons trop tendance à privilégier l'acceptation, le béni oui comme on dit. Le conflit est préférable, avec un peu d'encadrement, c'est aussi la source d'une pensée différente, mais bien évidemment, ça n'est pas la seule.
Tu penses à quoi ?
Je me soucie des gens que la notion de conflit utile à l'innovation effraierait, et qui pourtant se soucient malgré tout de penser différemment. Ils trouveront inspiration dans un conseil qui invite à rester bizarre, ou en anglais « weird ». Il a été formulé par Joey Cotwright de l'Observatoire des villes, une ONG de la ville de Portland dans l'état d'Oregon aux États-Unis, s'appuyant sur la théorie de l'économiste Michael Porter, selon laquelle l'avantage compétitif provient de la différence. Il ne conseille pas de chercher à être bizarre, mais d'accepter ses bizarreries et d'en tirer parti. En clair, au lieu d'essayer de faire comme tout le monde, on a intérêt à jouer sur ses différences. C'est vrai pour entreprises et start-up, et c'est particulièrement vrai pour les villes dont la fameuse architecte new-yorkaise Jane Jacobs disait il y a quelques dizaines d'années « Le plus grand atout d'une ville, c'est ce qui la distingue de toutes les autres. » En conclusion, la différence paye et les différences, même celles qui choquent, même quand elles sont source de conflits, doivent être encouragées, voire exploitées. Le vrai leader pour Linda Hill est d'abord un architecte social, celui qui sait gérer, animer, tirer parti des différences, des conflits, des collisions, des égratignures au sein de son organisation.
À condition, bien sûr, de ménager quand même de temps en temps les nerfs des personnes, parce que les conflits, c'est quand même particulièrement stressant. Merci Francis, on peut retrouver cette chronique et toutes les autres sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut aussi te lire sur les sites de l'Opinion et de la Tribune. On peut enfin découvrir tous tes écrits, toutes tes contributions, tous tes projets sur francispisani.net. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Ziad.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 372 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Jolnar Douek, Raja Yahyaoui, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Merci à nos stagiaires de la semaine, c'est-à-dire Maëva Labbé et Emma Guiraud. Merci aussi aux équipes de politique étrangère et particulièrement à Marion Duval et Marc Ecker. Enfin, merci aux équipes du Tank, dont Damien Cahen. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Merci pour votre écoute, vos réactions, vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.